Je suis et Mathieu, et soyez bénis. On peut l'encourager, l'applaudir.
Je me permets juste de dire un petit mot. En fait, ce matin, alors moi, je suis tellement, mais tellement bénie d'avoir Emmanuel avec nous ce matin. Parce qu'elle porte vraiment quelque chose sur son cœur, c'est de vivre l'Église en famille. Et également, ça fait partie aussi de ce qu'on a envie, nous, de vivre ici. Ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi on s'est bien entendu dès le départ, c'est qu'on a des mêmes choses à cœur. Et du coup, aujourd'hui, ce matin, on l'a invité. Parce que nous, ici, à Grenoble aussi, on veut porter ces choses. On ne veut pas qu'il y ait dans le même bâtiment une église pour les parents et une autre petite église pour les enfants. On a envie de vivre l'église en famille. Et je veux juste bénir Emmanuel ce matin, parce que je crois aussi que ce qui va sortir de sa bouche, ça a besoin d'aller plus loin que juste ce qu'on entend avec nos oreilles. Ça a besoin de prendre racine dans nos cœurs, parce que c'est ça aussi qui va transformer la vie de nos enfants. C'est de pouvoir les inclure dans tout ce qu'on fait. Et c'est un vrai challenge. Ce n'est pas si simple. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un vrai challenge de pouvoir les inclure dans tout ce qu'on fait. Donc, ce matin, vraiment, Seigneur, je te remercie pour Emmanuel. Je te remercie pour ce que tu as placé sur son cœur. Je te prie vraiment que, alors qu'elle parle, tu puisses donner vie à chacune de ses paroles, que ça puisse venir prendre racine. Seigneur, tu viens convaincre nos cœurs, que ça aille au-delà de notre entendement, mais que ça puisse prendre feu à l'intérieur. Seigneur, que ça puisse prendre vie à l'intérieur et qu'on puisse aussi porter cette vision en tant que famille, en tant qu'église, Seigneur, et que ce ne soit pas juste une parole qui soit entendue et abandonnée sur le bord du chemin, mais que ce soit vraiment quelque chose qui puisse venir prendre racine dans nos cœurs et qu'on puisse ensemble servir ta vision éternelle. Au nom de Jésus, amen.
Super, merci Junior. Amen, c'est vraiment une joie d'être là ce matin avec vous, Connect Grenoble. Et vraiment, merci pour votre accueil, merci pour votre confiance. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager plusieurs choses. Je pense pas que je vais... J'ai écrit beaucoup de choses, mais je pense pas que je vais tout dire, mais c'est pas grave. Et puis, je voulais juste vous partager, avant que le culte commence, j'ai reçu cette image, je voyais une cage... une belle cage dorée, et puis la porte était ouverte et je voyais les oiseaux qui s'envolaient à l'extérieur. Et je sens vraiment, j'ai vraiment senti que c'est une parole pour plusieurs d'entre vous ici, où parfois on vient à l'église et puis on a l'impression qu'il faut qu'on rentre dans une cage, dans un moule, dans un rôle, dans un... Et le Seigneur, ce matin, je sentais, il voulait vraiment dire non, je viens pour libérer. Et en fait, la beauté de l'Église, c'est qu'on est tous, on a tous un cœur, on a tous un cœur pour Dieu, et on a tous des dons, des talents différents. On est tous dans des saisons différentes de nos vies, et en fait, c'est quand on vient et qu'on est tous ensemble que, en fait, on exprime le mieux le cœur de Dieu. Et en fait, je voyais comme ces oiseaux qui étaient libérés et ils n'étaient pas tous libérés pour faire les mêmes choses. Ils n'étaient pas tous libérés pour aller dans les mêmes directions. Mais ils étaient tous libérés pour aller porter du fruit où Dieu les appelait. Et je sens vraiment que c'est ça ce matin, ce que je vais vous partager. Il y a des choses qui vont résonner, il y a des choses qui ne vont pas résonner. Mais je sens qu'il y en a plusieurs qui sont appelés à sortir de la cage. Et j'avais aussi cette parole que le Seigneur, il est simple. Et il nous accueille avec simplicité telle qu'on est. On n'a pas tous les mêmes appels, on n'a pas tous les mêmes dons, mais on a tous quelque chose à donner. Et je me fais porte-parole de ce que JD a partagé. On a tous reçu quelque chose et on a tous quelque chose à donner. Et juste pour vous faire une petite présentation, donc je suis mariée à Mathieu depuis 16 ans et on a 4 filles de 5 à 12 ans. Et donc on est à Montélimar depuis... on a bien travaillé, on peut nous applaudir. Et puis, on est venu sur Montélimar il y a 11 ans pour démarrer l'église Connect. Et on vit cette belle aventure depuis 11 ans maintenant. Et moi, je suis dans la vie, je suis professeure des écoles récemment diplômée. Et j'exerce pas cette année. Mais j'ai toujours eu dans mon cœur cet amour et pour les enfants, pour la jeune génération. Et je pense que ça vient notamment du fait que de mon enfance où voilà, j'ai vraiment beaucoup reçu dans mon enfance et rencontré Dieu aussi dans cette période-là de ma vie. Et senti le cœur de Dieu, en fait, pour... je me suis toujours sentie accueillie par Jésus. Et je pense que ça vient de là. Et voilà, je sens que le Seigneur m'a donné des choses aussi à transmettre à l'Église par rapport à ça. Et vous savez, donc, on a démarré l'Église et on est responsable avec d'autres de l'Église Connect. Et puis, voilà, on est amené en tant que responsable à prier ensemble, à prendre des décisions, à avoir des responsabilités qui ne sont pas toujours faciles. Et, mais avec le Seigneur, heureusement qu'il est là. Et vous savez, dans notre vision, et je crois que ça rejoint aussi votre vision, et je pense que c'est l'appel de chacun d'entre nous. À partir du moment où on a rencontré Jésus, notre appel, c'est de faire des disciples. Et depuis quelques années, le Seigneur met vraiment l'emphase là-dessus, personnellement, dans notre couple, dans notre famille, sur notre appel de faire des disciples. Et faire des disciples, eh ben, c'est pas rien. Et c'est quelque chose auquel Jésus nous a appelés. Et puis alors, quand on est responsable d'église, on va dire, pour faire des disciples, on va implanter des églises, on va aller évangéliser dans la rue, on va s'engager, soutenir des missionnaires qui vont aller sur le terrain, on va essayer de parler aux amis de Dieu, dans nos relations, etc. Et puis, les enfants, tout ça, un peu... Est-ce que je change de micro ou pas ? Est-ce que ça coupe ? C'est bon ? Ça va là ? Et puis les enfants, en fait, c'est un peu le package qui vient avec, mais en fait, on est souvent beaucoup focalisé sur les adultes. Et c'est bien, là, je parle à des adultes, mais je pense que c'est une réalité dans la plupart des églises, c'est que tous nos efforts, voilà, on va essayer de faire un super accueil, une belle salle et tout, et puis les enfants, c'est ce qui vient avec. Et puis c'est parfois aussi l'appât. L'appât pour attirer les parents. Mais on n'est pas trop focalisé sur les enfants. Souvent, les enfants, le service pour les enfants, c'est un peu comme le service pour le ménage, c'est les choses où on a du mal à recruter. Et je dis ça parce que statistiquement, c'est une réalité dans la plupart des églises, pas qu'en France, dans le monde aussi, dans les églises occidentales, on va dire, parce que les modèles des églises dans d'autres pays ne sont pas forcément pareils. Et les enfants, en fait, c'est s'occuper des enfants dans l'église, ça va être considéré comme c'est nécessaire parce qu'ils sont là et il faut bien faire avec, mais en même temps, c'est pas du tout une priorité et c'est pas du tout, ils sont pas du tout considérés, par exemple, comme un champ de mission. Alors que pourtant, les enfants, ils viennent, ils naissent pas sauvés, même s'ils sont nés dans une famille chrétienne. Le salut, c'est pas héréditaire. Et c'est souvent les grands oubliés dans la société, mais aussi dans l'Église. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'on connaît, vous connaissez certainement des ministères, des orateurs, mais auprès des enfants, pas tellement. Je sais pas s'il y en a qui en connaissent. Des gens qui ont vraiment œuvré auprès des enfants. Il y a Bill Wilson. Mais voilà, alors que d'autres grands orateurs et tout, personne de réveil, on en connaît, mais parmi les enfants, on n'en connaît pas vraiment. Et pourtant, Jésus, lui, il s'est arrêté pour les enfants. Et j'avais envie d'abord de remettre un petit peu les choses en contexte en commençant par le psaume 127 pour dire quel est le cœur de Dieu pour les enfants. Psaume 127, on va le lire ensemble, des fils. Voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Donc les enfants, c'est notre héritage et c'est une récompense. Parfois, moi, je suis maman de 4 enfants. Il y a des jours où, franchement, Bah, c'est une faut être dans la foi pour dire ah, c'est une récompense. Il y a des jours où c'est dur en tant que parent. Si vous êtes parent parmi nous, bah, vous savez ce que c'est. Si vous avez été parent, on oublie hein, souvent les choses, les moments un peu difficiles. Et merci Seigneur, je pense que ça, c'est la façon dont il nous a créés. Mais ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, Dieu nous dit dans sa parole que c'est une récompense. Alors nous, notre job, c'est d'aligner notre cœur, nos pensées à la parole de Dieu. Et puis, j'aime bien décortiquer un peu les quelques versets de ce psaume que donne l'Éternel. Et le Seigneur, il nous confie nos enfants. On dit souvent, nos enfants ne nous appartiennent pas, mais c'est Dieu qui nous les confie avec une mission, c'est qu'on les ramène au Père. Il nous les confie pour qu'on les ramène au Père. Et c'est comme des flèches. Les flèches, si vous avez fait du tir à l'arc, les flèches, elles ont une cible. Elles ont une direction, elles ont un objectif, elles ne vont pas comme ça, sinon ça ne sert à rien. Et donc, elles visent quoi ? Elles doivent viser le ciel, elles doivent viser le Père. Et puis, à la fin, ça parle de l'armée. Voilà, heureux l'homme, il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Et ça peut être une armée, on n'est pas dans la honte parce que c'est une armée nombreuse. Les enfants... c'est un cadeau. Et vous savez, donc quand on a démarré l'église à Montélimar, on était 4 adultes et 3 enfants. On a démarré l'église dans notre salon. La première année, on était dans notre salon. Et puis l'église a grandi petit à petit. On a eu un premier bâtiment. Et puis au bout de 4 ans, on a eu le bâtiment dans lequel on est actuellement. Et une des particularités, c'est qu'on a toujours, été autant d'enfants que d'adultes. Et ça fait partie un petit peu de notre ADN. Et c'était souvent un challenge parce que, voilà, il y avait des fois où il y avait tellement d'enfants que quand les adultes partaient pour être avec les enfants, bah, on a prêché, il restait 10 personnes dans la salle. Et ça mobilise voilà, toute une armée aussi pour prendre soin d'eux. Mais en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et puis, moi, j'ai grandi dans une église, dans l'église traditionnelle. Et je me souviens, on était 4 enfants aussi avec mes parents. Et puis, il y avait des dimanches où il y avait quelques familles. Et puis, il y avait des dimanches où on était la seule famille. Et franchement, c'était pas facile. Je me sentais très seule. Et je me dis, bah, c'est quand même une grâce. Et vous aussi, il y a des enfants. Et réalisons que c'est une grâce pour nos enfants, mais pour nous aussi. Et puis, j'aime bien regarder à Jésus. Parce que j'aime bien cette citation de Bill Johnson qui dit « Jésus, c'est la théologie parfaite ». Quand on ne sait pas comment penser, comment réagir, regardons à Jésus parce qu'il a modelé, il est l'exemple parfait pour nous et c'est lui qui nous montre le chemin. Alors on connaît tous les paroles de Jésus, J.D. les a citées plusieurs fois, « Laissez venir à moi les petits-enfants », etc. Et peut-être qu'on a... non, tu peux passer ça. Enfin, je ne sais pas, c'était peut-être avant. « Laissez venir à moi ». Et peut-être... on a des images qui peuvent nous venir. Tu peux montrer, j'ai mis 2 images. Voilà. On a peut-être des images comme ça quand on entend ce verset, une image un petit peu édulcorée, on va dire, de Jésus. Très, alors ça devait être une image un peu des années 70, Jésus un peu hippie, avec des enfants, c'est joli. Et puis on imagine Jésus qui dit « Ah, laissez venir à moi les petits-enfants », etc. Et en fait, si on reste sur cette image-là de Jésus, qui n'est pas une image fausse, hein. Jésus, il était humble et doux de cœur. Enfin, ça peut refléter une facette de son caractère, mais c'est important de regarder quand il a dit ces paroles. C'était certainement pas cette image-là, parce qu'en fait, il a écrit qu'il était indigné. Indigné, ça veut dire très en colère. Ici, il n'a pas l'air du tout indigné. Et en fait, c'est un passage assez important, puisqu'on le retrouve dans 3 évangiles sur 4, ce passage où Jésus dit ses paroles, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, Marc 10 et Luc 18. Et en fait, ce que Jésus a fait ce jour-là, on ne le réalise pas toujours, mais c'est vraiment extraordinaire. Et encore une fois, vous savez, Jésus, c'était quelqu'un qui était complètement à contre-courant, révolutionnaire, choquant parfois. En tout cas, dans le contexte de son époque, on ne réalise pas toujours. Il ne faisait pas ça pour choquer, mais c'était juste qui il était. Et il était pleinement homme et pleinement Dieu. Et quand il a dit ça, il n'a pas dit ça pour faire bien, pour chercher à s'attirer les faveurs des maires ou de certaines personnes. Mais c'était vraiment quelque chose c'était pas non plus sous le coup de l'émotion. On peut dire, ah bah, il y a écrit dans la Bible, il était indigné. C'était pas un excès de rage et une émotion comme ça où il a perdu le contrôle de lui-même, pas du tout. Et en fait, c'est important de se poser la question, mais pourquoi alors il s'est mis en colère? Il y a trois fois, alors là, on peut le lire peut-être le passage dans Marc 10, si tu veux bien le mettre, Junior. Hop. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Et dans l'évangile de Marc, il y a trois épisodes où il est raconté que Jésus est indigné. Il y a après la guérison de l'homme à la main infirme que Jésus a fait le jour du sabbat, dans Marc 3, avec les jeunes enfants, donc dans Marc 10, et puis lors de la corruption dans le temple, où Jésus a chassé les voleurs dans le temple, Marc 11. Et en fait, cet épisode-là, si on remonte un petit peu les versets juste avant pour voir le contexte, cet épisode, il a lieu juste après une discussion sur le divorce, où les pharisiens viennent voir Jésus et lui disent est-ce qu'il est permis de divorcer de sa femme, etc. Et puis on peut imaginer que Jésus, il est dans un débat théologique, il y a les pharisiens qui viennent essayer de le piéger, et il y a des enfants qui arrivent en plein milieu de la discussion. Et là, c'est pas du tout le moment, c'est pas du tout approprié, c'est hyper incorrect, ça les concerne pas du tout. Et on peut imaginer que les disciples, là, ils se sont sentis remplis d'une mission, ils se sont dit, là, il faut qu'on remette l'ordre, il faut qu'on... Allez, ça, c'est notre rôle, on est là un petit peu comme les gardes du corps de Jésus, on le voit bien dans la série de Chosen, si vous avez l'occasion de la regarder, où parfois les disciples, ils sont un peu en mode, voilà, on est les gardes qui devront... mettre de l'ordre là-dedans. Et puis, ils se disent, bah voilà, ces enfants-là, ils n'ont rien à faire là à ce moment-là, ils vont empêcher Jésus de parler, ils vont empêcher les gens de poser des questions, il faut que Jésus y réponde aux pharisiens parce que là, c'est trop important, etc. Et parfois, nous aussi, c'est un peu ce qu'on peut penser avec les enfants, que ce soit dans notre maison ou dans l'église, où ils ne viennent pas au bon moment, où ça nous dérange, où ils nous empêchent de vivre notre culte. Et combien de fois, vous savez, on a l'impression, même parfois, et je suis honnête avec vous, moi, je sers auprès des enfants régulièrement à l'église. Et il y a des fois où je me dis, oh là là, je suis dégoûtée, il y a un super message, et puis je vais louper mon culte. Et combien de fois on peut être aussi dans cet état d'esprit de se dire, eh ben, je vais passer à côté, je ne vais pas vivre des choses avec Dieu, et puis les choses spirituelles, c'est avec les adultes, et puis avec les enfants, ben non, ce n'est pas très spirituel. Et pourtant, la réaction de Jésus est complètement différente, et c'est là où il s'indigne, où il se met en colère et où il dit ses paroles. Ses paroles où il répète que les enfants, ils ont leur place auprès de Jésus. Ils ne sont pas trop petits. Il les accueille, il leur fait de la place, même au milieu d'un débat sur le divorce. Et puis, quand il écrit « venir à moi », ça suppose que les enfants... ils sont attirés par Jésus. Et je crois que ça, c'est vraiment une réalité que les enfants, ils sont attirés par la présence de Dieu. Et je pense que vous avez tous fait l'expérience. Les enfants, ils vont tout de suite sentir si on leur porte un intérêt ou non. Et ils vont s'attacher, ils ont cette capacité d'être sans filtre et de s'attacher à un adulte quand ils vont sentir que l'adulte, il a un réel intérêt pour eux. Et je pense qu'ils sentaient, en fait, dans la personne de Jésus, que Jésus, il avait de l'intérêt pour eux. Et ça, ça vient aussi nous remettre en question. Parfois, ben, c'est pas le moment. Les enfants viennent nous voir, c'est pas le moment. Et je dis pas qu'il faut tout le temps dire oui, viens. Mais est-ce que, peut-être parfois, oui, c'est pas le moment, mais oh, je vais revenir vers toi plus tard parce que t'avais l'air vraiment, t'avais vraiment besoin de me parler et je vais te donner ce temps dont tu avais besoin. Mais les enfants, ils sentent ça de la part de Jésus. Et il insiste deux fois dans la même phrase. Laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas, au cas où on n'ait pas compris. Il insiste souvent, Jésus, avec ses disciples. Et puis, il dit après, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alors, dans cette partie du verset, Jésus, il nous demande de devenir comme des enfants. Il n'a pas dit, car il y a de la place pour eux dans mon royaume. Parce que nous, on pourrait dire ça aussi dans l'église. Il y a de la place pour les enfants dans notre église. Hein, on leur met un coin, on leur fait une salle, on leur achète du matériel. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit le royaume est pour ceux qui les accueillent. Même si c'est bien de les accueillir, il a dit le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il n'a pas dit non plus aux enfants, grandissez un peu, il faut que vous preniez un peu de maturité, il faut que vous soyez comme des adultes. Il a dit aux adultes, il faut que vous soyez comme des enfants. Et si vous devenez, il va même plus loin, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Alors ça, si ce n'est pas de la provocation de la part de Jésus, il dit carrément, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux si on ne devient pas comme des enfants. Et il nous regarde et il nous dit, devenez comme des enfants. Cherchez ma présence, comme ces enfants qui cherchaient sa présence. Bravez les obstacles pour venir dans mes bras et restez avec moi. Dans l'épisode, dans le même épisode, mais qui est relaté dans Luc, qui a lieu aussi après la discussion sur le divorce, les disciples sont en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Ses disciples nous ressemblent et on peut se dire il vaut mieux regarder à Jésus parce que, et en même temps voilà, on peut se retrouver parfois en eux. Et dans ses paroles, Jésus il a dit plusieurs choses. Il a dit, tu peux mettre Luc 9 verset, je crois que je l'ai mis, verset, voilà. Il s'éleva entre eux une discussion, il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus, qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus petit parmi vous, c'est celui-là le plus grand. » Alors en fait, c'est tout simple. Accueillir Jésus, accueillir un enfant, c'est accueillir Jésus. Et je crois qu'il n'y a rien de plus spirituel à ça, hein. Et on peut l'appliquer, en fait, dans l'église, dans nos vies. Quand on accueille un enfant, on accueille Jésus. Et souvent, on oublie, en fait, on ne réalise pas. Mais Jésus, pourtant, nous dit, celui qui accueille cet enfant en mon nom, m'accueille moi-même. Donc, on a cette responsabilité et ce privilège de représenter Jésus pour les enfants. C'est incroyable. Alors, devenir comme des enfants, ça veut dire quoi? De quoi parle Jésus? Est-ce que ça veut dire que les enfants sont sans défaut, sont parfaits, sont sans péché? Si vous êtes parents depuis plusieurs années, vous savez bien que non, même si on fait de notre mieux pour les élever, pour corriger leur tort, leur travers. Mais non, ça ne veut pas dire ça. En fait, il s'agit d'une humilité de cœur. Il s'agit d'un esprit enseignable, il s'agit d'une générosité qui est gratuite. Souvent, les enfants, ils sont extravagants dans leur générosité. Ils sont pleins d'amour. Moi, l'an dernier, j'étais maîtresse en maternelle et je rentrais. Il n'y avait pas une semaine où je rentrais sans un « je t'aime, tu es trop belle, je t'aime, tu es trop belle maîtresse ». Et je suis retournée là au début de l'année et puis j'ai eu ma petite dose d'affection. J'étais là « oh, c'est trop bien ». Et c'est vrai, hein, la générosité des enfants et puis leur amour comme ça. Ils ont une foi simple. Ils vont croire en ce qu'on leur dit, ils le croient. Ils ont cet esprit qui croit tellement facilement. Ils ont une confiance aveugle parfois. Et ils ont une dépendance extrême à leurs parents, aux adultes. Et puis ils ont un besoin irrépressible d'aimer et d'être aimés. Et en fait, c'est comme ça. C'est ça, Jésus nous demande d'être comme ça. D'avoir ce besoin irrépressible d'aimer et d'être aimé de lui, d'avoir une foi simple, d'avoir une confiance aveugle en lui, d'avoir un esprit enseignable, d'avoir une générosité extravagante, une humilité de cœur et de pensée. Le royaume des cieux, il fonctionne à l'envers. Jésus, il vient renverser tous nos paradigmes. Parfois, on se dit, ah, il faut que je fasse telle formation, telle formation, telle formation. Pour être plus spirituel, il faut que je lise ma Bible tant de fois, ma Bible en entier, voilà, tous les ans, comme ci, comme ça, etc. Et alors, je pourrais avoir accès à Dieu, je serai plus proche de Dieu. Et Jésus vient et renverse tout. Il nous dit, non, deviens comme un enfant pour entrer dans mon royaume. Et dans Matthieu 18, il dit, si vous ne changez pas et vous ne devenez pas comme un enfant, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et tout à l'heure, plusieurs fois, JD, t'as cité l'épisode de la brebis perdue, et toi aussi, ouais, tous les deux, je crois que vous avez cité, sur la brebis égarée. Et cette semaine, en préparant ce message, j'avais jamais remarqué qu'en fait, quand il donne cette parabole, Jésus, en fait, il parle des enfants. Et je ne sais pas si vous avez vu à la fin, peut-être que je l'ai mis, je ne sais pas si je l'ai mis. Oui. Non, c'est après, c'est la brebis. Il dit, il en est de même pour votre Père Céleste, après avoir dit la parabole, il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perdent. Et les petits dont il parle, c'est juste avant la parabole, il parle des enfants. Et puis voilà, il y a encore d'autres choses où il ne mâche pas ses mots. Il ne mâche pas ses mots. Alors ça, j'aime bien, je voulais commencer par ça. Et puis, parce que c'est la parole de Dieu. Et puis, j'avais envie d'aller un petit peu dans quelque chose de plus concret. Et puis, vous savez, on est très moderne à Montélimar, donc je vais vous demander, tu peux mettre le QR code, vous pouvez scanner le QR code qui va s'afficher avec votre smartphone. On va faire un petit sondage. Vous pouvez vous approcher, zoomer, ça va vous envoyer sur une application. Et puis, vous allez répondre à deux questions. Et puis ceux qui n'ont pas, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de téléphone ? Ou tout le monde a un smartphone ? Bah, tu pourras lever la main. C'est bon ? Eh oui, ça va arriver. Est-ce que tout le monde a pu scanner ? Là-bas, j'en vois encore. Ça va arriver. En fait, ça attend que tout le monde ait scanné. C'est bon ? Allez, bah tu peux envoyer la première question. Alors, attendez un petit peu avant de répondre. T'appuies sur la flèche de droite, normalement, ça... Voilà. Alors, quel âge aviez-vous la première fois que vous avez entendu parler de Dieu ? Ça ne veut pas dire où vous êtes converti, c'est où vous vous souvenez que quelqu'un vous a parlé de Dieu et ça vous a suffisamment marqué pour que vous vous souveniez de ça. Ou quelqu'un vous a parlé de sa foi, parlé de Dieu, ou... Voilà, ou que vous avez entendu, ça peut être un père, ça peut être un adulte, ça peut être vos parents. Voilà, ça évolue à mesure que vous mettez vos réponses. Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre ? C'est bon ? Donc on voit ici... Voilà, 80% entre 0 et 10 ans, 81%, donc ça concerne 22 personnes, 11% entre 10 et 18 ans, 3 personnes, et 7% entre 18 et 40 ans, 2 personnes, et puis personne après 40 ans. Donc juste ça, c'est assez parlant. Première fois que quelqu'un, ça vous a marqué. Deuxième question, tu peux passer. Quel âge aviez-vous quand vous êtes devenu chrétien ? Donc là, vous avez fait la démarche de donner votre cœur à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas eu des épisodes, des hauts, des bas. Hein. C'est la première fois que vous avez dit, bah, Seigneur, je veux te suivre. Voilà. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Donc on voit 15% entre 0 et 10 ans, 46% entre 10 et 18, 27% 18-40 et 12% 40 et plus. Donc les chiffres sont parlants et ce n'est pas la première fois que je fais ce sondage. Et ça correspond, il y a des statistiques, des études qui ont été faites aux États-Unis par un groupe qui s'appelle le groupe Barna, des études qui ont été faites pendant plus de 10 ans. Et ça correspond à ces chiffres, c'est-à-dire que, je vais vous donner les chiffres officiels, tu peux les afficher, Junior, s'il te plaît. C'est sur le diaporama. La majorité des conversions ont lieu dans l'enfance avant l'âge de 14 ans, 71%. Donc ça veut dire que dans la salle là, et on l'a vu avec le sondage, ça veut dire que les deux tiers, soit à peu près 70%, et je crois que c'était à peu près ça, entre 0 et 10, il y avait 15, et après c'était 46. Donc on arrive près des 70%. Voilà, avant 14 ans, 70% des conversions. Ça veut dire que dans la salle, c'est aussi vrai pour nous tous. Si on est là aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait de suivre Jésus, ça a eu lieu dans cette période-là de notre vie. Deux tiers des chrétiens le sont devenus avant 18 ans. Et après 21 ans, il y a seulement 23% de conversion. Et puis dans le monde, un tiers de la population mondiale, ce sont des enfants. Enfants moins de 18 ans. Voilà. On a tous été des enfants ici. Et en fait, c'est une période très courte à l'échelle d'une vie, si on se base sur l'espérance de vie. On la traverse qu'une fois, mais c'est une période qui va être déterminante pour le reste de notre vie. On est tous marqués par notre enfance. C'est pour ça qu'il y a un enjeu, et on le voit là dans les chiffres du sondage, il y a un enjeu énorme sur l'enfance et sur cette période-là. Et ça peut impacter l'enfance, impacter quelqu'un dans cette période de la vie, ça peut impacter toute sa vie et surtout toute une génération. Frédéric Douglas dit « Il est plus facile de fabriquer un enfant solide que de réparer un adulte brisé. » Et William Booth, « Évangéliser les enfants, c'est devancer le diable. » Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de combats qu'on mène en tant qu'adulte. Il y a beaucoup de... On voit bien notre société, notre monde, il se passe des choses tous les jours, si on regarde les nouvelles, mais c'est déprimant de voir les choix, que ce soit dans les lois éthiques, dans là où le monde va. Et en fait, il y a énormément de combats, et même dans l'Église, où on est amené à se positionner. Mais si, en fait, on investissait dans la jeune génération, dans les enfants, toutes les lois de Dieu, toute la pensée de Dieu, elles seraient inculquées dès le plus jeune âge, et du coup, ça enlèverait ces problématiques-là. Hein, on peut parler de... Voilà, l'avortement, les jeux d'argent, la pornographie, etc. Parfois, on ne réalise pas en fait que le fait d'inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge les voies de Dieu, en fait, ils vont embrasser aussi ces principes-là et on n'aura pas ou beaucoup moins à se battre dans ces domaines-là. Si on enseigne avec efficacité les principes et les attentes de Dieu à nos enfants, si on leur transmet une soif de justice et une passion pour Dieu, alors le besoin de s'engager dans une guerre contre la culture sera limité parce qu'en fait, on va changer la culture de l'intérieur. Alors que là, on s'attaque à la culture par l'extérieur. On essaie de changer les choses et il faut continuer. Mais en fait, je pense qu'il faut davantage investir dans essayer de changer la culture de l'intérieur. Est-ce que vous avez entendu parler du principe de la première mention? Le principe de la première mention, c'est très simple. Et ça a été utilisé dans les mouvements politiques de type dictature idéologique, ils l'ont bien compris. En fait, c'est la première fois que vous entendez quelque chose sur un sujet que vous ne connaissez pas. Ça va devenir le filtre à travers lequel vous allez analyser tout ce que vous allez entendre par la suite. Par exemple, si on vous dit « les chats peuvent voler » quand vous avez 3 ans, si on vous dit ça et qu'on vous persuade, je sais pas, on vous montre une vidéo truquée, après, ce qu'on va vous dire par la suite, vous allez l'analyser à travers ce filtre-là. Et surtout si c'est une personne de référence, un adulte qui est en position d'autorité dans votre vie qui vous dit ça, en qui vous avez confiance, vous allez accorder encore plus de crédit à ce qu'il vous a dit. Et du coup, ça va être compliqué si quelqu'un vient vous dire le contraire parce que vous l'aurez inscrit dans votre tête comme la vérité. D'accord ? Donc ça, c'est le principe de première mention. C'est un principe qui est valable, qui est reconnu dans le développement de l'enfant. Et en fait, on grandit tous en fait en se construisant comme ça. Donc c'est hyper important de réaliser que ce qu'on dit, ce qu'on enseigne à nos enfants, ça devient le filtre à travers lequel ils vont regarder le monde, appréhender le monde. Et les sociologues, ils disent que les principes moraux, les fondements moraux qui sont établis dans la vie de l'enfant, ils ne vont plus trop changer. Et ils se fondent comme ça, ça s'arrête à peu près à l'âge de 9 ans, selon les sociologues. Ils disent l'enfant, il va construire comme ça les fondements moraux, sa vision du monde jusqu'à l'âge de 9 ans. Et après, ça va très, très peu changer. Ce qui est établi dans l'enfance. Alors, je dis ça, bien sûr, on a un Dieu qui est tout-puissant, on a un Dieu qui est souverain, on a un Dieu qui peut intervenir dans n'importe quelle situation, hein. On n'enlève pas Dieu de l'équation, mais c'est important de regarder à la globalité, en fait, de comment ça se passe. Donc, ce qu'un enfant il éprouve par rapport à son avenir, c'est lié à ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui. Et je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous. On a tous, voilà, nos parents, mais d'autres adultes aussi qui ont investi et cru en nous. Ça peut être des profs, ça peut être des personnes qui ont été en position d'autorité et qui ont contribué à faire qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Hein, on a tous eu des modèles comme ça, des personnes qui nous ont montré de l'affection, de l'intérêt. Et puis, inversement aussi, hein, l'inverse est vrai, des personnes qui ont pu nous faire du mal, nous blesser alors qu'on était enfant et que ça nous a marqué aussi. Donc, en fait, dans cette période de la vie, on est très vulnérable, mais il y a vraiment un enjeu qui est hyper important. Et j'aimerais juste vous montrer une toute petite vidéo qui s'appelle « La fenêtre 414 ». Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de ça.
La fenêtre 414 représente un cadre démographique des enfants âgés de 4 à 14 ans. Cette tranche d'âge est unique, car c'est la période à laquelle les enfants sont le plus ouverts à l'Évangile. Il y a plusieurs années de cela, Spurgeon a dit « La capacité de foi est plus grande chez l'enfant que chez l'adulte ». Au cours des années, des recherches ont démontré qu'un grand pourcentage, peut-être 8 personnes sur 10, ont choisi de suivre Christ dans cette période de leur vie. C'est donc une grande opportunité en ce qui concerne l'ouverture à l'Évangile. Nous l'avons vu dans la vie de nos enfants, qui se sont presque tous donnés à Christ entre l'âge de 4 à 14 ans. De plus, la vision globale du monde des enfants se forme pendant ce laps de temps. Et ceci influence ses décisions, car à la fin de cette période, leur vision du monde est fixée. C'est pourquoi elle est cruciale. C'est au cours de cette période qu'ils sont les plus réceptifs à l'Évangile. Leur façon de raisonner est formée au cours de ces années, et ils sont ouverts à tout genre d'influences. Il faut alors s'assurer que les influences qu'ils reçoivent vont contribuer à les former à être des serviteurs de Dieu pour la suite de leur vie.
Merci. Merci.
Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel.
Bonjour Laurence.
Très heureuse de vous retrouver pour évoquer l'actualité chargée de la...
Voilà. C'est bon ? Ouais. Merci beaucoup Junior. Donc voilà, tout est dit, hein, dans cette vidéo. Et puis pour finir, je voulais vous montrer cette petite image qui m'a beaucoup marquée. Je l'ai vue il y a quelques mois. Donc, vous voyez, ces deux bougies. Et puis, je vais vous poser une question très simple. Laquelle achèteriez-vous ? Celle de gauche, on me dit. Tout le monde est d'accord ? OK. Est-ce que vous seriez prêt à acheter celle de gauche, même si elle est un peu plus chère ? Un peu plus chère. Hein. Oui, ça vaut le coup ? Ça vaut le coup. OK. Imaginez que les deux bougies représentent deux personnes, l'une adulte et l'autre enfant. Que représente la grande bougie ? un enfant. Et ouais. Et je trouve que c'est hyper parlant, en fait. Si on allume la grande bougie, au tout début, elle va brûler beaucoup plus longtemps. La flamme, bien sûr, ça représente la foi, quelqu'un qui se donne à Christ et qui va brûler, qui va amener son amour pendant une durée beaucoup plus grande que si on allume la bougie qui est déjà consumée, voilà, presque, je sais pas, deux tiers. L'esprit de l'enfant, c'est comme du ciment frais. Quelle empreinte on va laisser dans leur vie ? Dans quoi on va investir ? Et vous avez vu que dans l'église, parfois, on sert, on va être prêt à déplacer des montagnes, etc. Mais si vous voulez faire un investissement qui est durable et qui est rentable, qui va porter du fruit, vous avez vu toutes les statistiques, les sondages qu'on a faits, investissez dans la jeune génération. Alors, en tant qu'église, à quoi ça ressemble ? Ben là, vous avez eu l'appel de JD, de Flo. Hein, il y a besoin de s'investir. Cette année, nous, on a mis en place dans l'église, vous savez, on a une église où on a 80 moins de 18 ans. Donc, autant vous dire qu'on ne peut pas dire, bon, les enfants, ils font ce qu'ils veulent et puis on verra bien comment ça se passe. On a dû quand même s'organiser. Et c'est toujours un défi, c'est toujours un défi de recruter. J'aime bien faire des petites stats. Il y a 70% des personnes qui servent qui sont des femmes auprès des enfants. Et cet été, j'ai entendu une autre statistique qui m'a choquée. Et en même temps, je trouvais ça très bien de le dire. C'était Yvan Carluère qui disait que... Vous connaissez Yvan Carluère, l'église MLK à Paris. Super église qu'on aime, qui est hyper inspirante dans plein de domaines. 70% des personnes qui fréquentent MLK sont des femmes. Où sont les hommes ? Il y a 30% d'hommes. Il l'a dit cet été. Et puis, il a aussi dit qu'il y avait l'âge de décrochage des garçons de l'église, c'est 12 ans. Et c'est une réalité. C'est une réalité qu'ils expérimentent. Et c'est pour ça qu'on aime bien et on n'y est pas encore. Et l'idée, c'est pas de dire « Ah, il faut la parité absolue, il faut 50% d'hommes, 50% de femmes dans le service. » Mais on regarde le modèle biblique. Dieu, il a créé l'homme et la femme. C'est la base de la famille. Et il y a besoin, dans une famille, de papa et de maman pour représenter le cœur et le caractère de Dieu. Et pour pouvoir donner des modèles aussi à nos enfants. Et on a besoin, en fait, que chacun homme et femme on s'investisse auprès de la jeune génération. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des modèles, ils ont besoin de regarder des hommes et des femmes qui vont être inspirants, qui vont leur transmettre une soif et une passion pour Dieu. Et on a besoin de chacun. Et donc, dans notre église, cette année, on a essayé de rendre ça accessible à tout le monde, parce qu'il y en a qui peuvent dire souvent, mais moi, je ne me sens pas concernée, mais moi, je n'ai pas un cœur pour les enfants, mais moi, je n'ai pas de dons, je n'ai rien à apporter. Non, ce n'est pas vrai, les amis, on a tous quelque chose à donner. On a tous quelque chose à transmettre. Et on a essayé de mettre en place des formats un petit peu variés de comment on pouvait s'investir aux enfants. Il y en a pour qui, oui, ça va être plus naturel. Mais par exemple, on a invité les gens de l'église à témoigner, à venir témoigner. Et il y a eu quelqu'un cette année, là, on l'a fait. Il a servi dans la marine. C'est un Américain retraité de la marine. Il a servi dans la marine toute sa vie. On lui a dit, mais viens nous raconter. Viens raconter aux enfants, qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as vécu ta foi dans ce contexte-là ? Et il est venu. En plus, il est venu habillé avec son habit. Il a montré des photos du porte-avions sur lequel il était. Les enfants, ils étaient passionnés. Et c'était génial. Et il a pu leur transmettre une partie du cœur de Dieu, comment il a vécu sa foi, des anecdotes où il a vu Dieu agir dans son contexte. Donc, c'est pour vous dire, il peut y avoir plein de façons dans lesquelles on peut s'investir auprès des enfants. Déjà, une église qui prie régulièrement, qui intercède pour eux, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu sur leur vie. Et c'est un enjeu... pour eux, mais c'est aussi un enjeu pour nous, parce que les enfants aujourd'hui, c'est ceux qui vont qui sont dans la société aujourd'hui, mais ils n'ont pas aujourd'hui de poids politique, etc. Mais ils vont l'être dans quelques années. C'est eux qui prendront des décisions, c'est eux qui vont être sur le devant avec les responsabilités, etc. Donc en fait, on a tout intérêt aussi à investir en eux pour ça. Et puis, voilà, je reviens juste au début parce que c'est le cœur de Dieu. Psaume 127, c'est une récompense, c'est un héritage dont Dieu nous demande de prendre soin. Et moi, je veux vous encourager ici à connaître Grenoble, de les considérer, de vous arrêter, de les accueillir, de leur ressembler, de investir en eux, de prier pour eux, d'encourager les familles aussi. Il y a plein de choses extraordinaires qui peuvent se faire pour les enfants, pour les familles. Mais l'Église a besoin de réaliser en fait la responsabilité qu'elle a. Amen. Je ne sais pas si vous voulez aller chercher... parce que je crois... Johanna et Tiffany, elles vont parler. Ouais, amen. Il y aura encore plein de choses à dire, mais je m'arrête là. Je vais juste finir avec encore une citation d'Ivan Kerluer qui a dit « On revient toujours à l'endroit où on s'est senti aimé. » Et c'est même nous, si on regarde dans nos propres vies, quand on regarde en arrière, on a envie de parfois de... Voilà, quand on est attiré par les personnes qui nous ont aimés, les endroits où on a senti qu'on avait une place, où on avait de l'importance. Et c'est aussi valable pour les enfants qu'on entend arriver. Et on veut les accueillir. Yeah ! Entrez, entrez ! Venez, venez ! Non. Ah, la porte est trop lourde. Ils arrivent. Bienvenue les enfants, vous pouvez vous asseoir. Ça va ? Vous avez passé un bon moment ? C'était bien ? Il en manque encore. Ah ben merci. Il y a des leaders là. Il y a des leaders, il y a des artistes. Super. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se lever et qu'en tant qu'Église, on puisse faire comme Jésus, bénir les enfants. Bénir les enfants. Vous pouvez vous approcher si vous voulez prier pour eux, les bénir, bénir cette génération que le Seigneur nous confie aux parents, mais vous savez, l'Église, c'est une famille. Et cette génération, elle vous la confie aussi. Que vous soyez parents ou pas, peut-être vous êtes grands-parents, oncles et tantes, c'est une génération que le Seigneur confie à son Église pour investir en eux, pour bénir, pour les bénir, pour prier pour eux. Et je vous invite vraiment à vous avancer, à vous approcher pour les entourer. Et puis on va simplement terminer en les bénissant, en priant pour eux, petits et grands. Les enfants, vous n'avez rien à faire, juste à recevoir. Ça, c'est trop bien. OK ? Puis on va prier pour vous. Vous êtes OK ? Ouais ?
Peut-être s'il peut y avoir des aînés aussi, retraités ou autres. C'est important que toutes les générations soient représentées. Comme on l'a dit, l'Église, c'est une famille. Et s'il peut y avoir plusieurs cheveux grisonnants aussi qui s'approchent, ça serait vraiment, vraiment super. Amen. Eh bien, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce qu'Emmanuel nous a dit. Merci, Jésus, de nous parler par ta parole. Et Seigneur, on te remercie pour tous ces enfants qui sont tellement beaux, Seigneur. Et Seigneur, en ton nom, Jésus, on veut les bénir. On veut bénir tous ces enfants. Merci parce que, oui, ils sont toute une grande génération qui arrive et qui est en train de grandir. Mais Seigneur, chacun individuellement est précieux et important, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, merci. Et Seigneur, on veut te dire qu'on veut prendre cette responsabilité que tu nous donnes de nous en occuper, de les aimer, Seigneur, de les honorer, de leur prêter attention. Seigneur Jésus, merci parce que il y a des destinées merveilleuses qui sont devant eux, Seigneur Jésus. Il y a des futurs leaders, des futurs médecins, des gens pour s'occuper d'autres. Il y a des gens qui vont fabriquer des choses. Il y en a qui vont être avec les gens. Il y en a qui vont s'occuper des plus déshérités, Seigneur Jésus. Il y a plein de choses à venir, Seigneur. Mais vraiment, nous, aujourd'hui, on veut se rendre disponible pour eux, comme tu nous l'as montré, Jésus. Et on veut proclamer ta bénédiction sur eux. Merci parce que il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Ils sont enfants de Dieu au même titre que nous et on est leurs frères et sœurs, Seigneur. Et Seigneur, on te bénit aussi pour ce qu'ils apportent dans l'Église. Merci parce que tu dis, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Merci Seigneur parce que ils n'attendent pas d'être plus vieux pour apporter quelque chose aussi dans l'Église et dans ton royaume. Alors Seigneur, on les bénit en ton nom. Amen.
Jean, est-ce que tu veux venir prier, Jean?